Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable. Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. J'ai lu plein de livres pendant mes vacances. J'ai fait une semaine de vacances, la MIF. J'étais en binge de livres, ce qui est cool parce que souvent pendant mes vacances, je me trouve un petit jeu vidéo et je le binge. Mais là, j'avais pas envie de passer mes vacances sur un écran parce que bah, déjà, j'étais en famille dans la forêt, c'était quand même cool. Et aussi, mon petit navet de neveu de 4 ans, il est comme tous les enfants assez vite fasciné par les écrans. Et l'idée, c'est de pas être tout le temps sur un écran quand il est là, parce que bah, c'est cool de jouer avec lui et de pas lui donner l'idée que ok, on passe toute notre vie sur un écran et c'est cool. Bref, du coup, je lui ai pas encore montré la Switch. Mais j'ai beaucoup lu, donc je vais vous faire une mini review des livres que j'ai lus pendant mes vacances. Premier livre que j'ai lu, et je remercie Crushtat dans le chat puisque c'est lui qui me l'a prêté, Frère d'armes de Stephen Ambrose. Désolé. C'est un livre de non-fiction, mais qui se lit comme une fiction. Vous le connaissez peut-être sous son titre original, qui est Band of Brothers, c'est écrit là, qui est une série de Steven Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup d'acteurs et actrices connus, notamment Tom Hanks et David Schwimmer, qui joue Ross dans Friends. Eh bien, c'est ce livre qui a inspiré la série, et ce livre raconte le déroulé d'une unité spécifique de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité de parachutistes qui étaient des unités d'élite et qui faisaient un travail très dangereux parce qu'en gros, ils étaient parachutés derrière les lignes ennemies, donc du côté où il y avait les Allemands, hein, les nazis, et ils devaient revenir vers, en gros, les alliés, ils vont arriver par exemple en Normandie, bah, de la mer, quoi, du nord, et du coup, les parachutistes, ils vont être parachutés au sud, derrière la limite entre les nazis et les alliés, et ils vont remonter vers les nazis pour les saboter avant que les alliés arrivent. Comme ça, par exemple, s'ils sabotent les canons sur la plage, et bah, quand les bateaux des alliés ils arrivent pour le débarquement de Normandie, il y a moins de canons qui leur tirent dessus. Voilà. Mais c'était du coup un travail hyper dangereux, et c'est une unité qui a vraiment été formée en mode voilà, vous êtes des frères d'armes, vous travaillez ensemble tout le temps et tout, et où il y avait une certaine idée de la valeur, du risque. Bon, il y en a énormément qui sont morts, hein, évidemment, c'est la guerre, le savez-vous, c'est horrible. La plupart n'étaient pas là par choix, puisque il y a eu la mobilisation, comment on dit, mobilisation forcée, enfin ouais, quand les États-Unis ont décidé de rentrer officiellement sur le terrain de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi l'unité qui a atteint la première le nid d'aigle, donc le repère de Hitler dans les montagnes. C'est une unité qui a participé à découvrir et à libérer des camps de concentration. Enfin voilà, c'est les horreurs de la Seconde Guerre mondiale telles qu'on les connaît. Et bah, l'auteur est un expert de l'histoire militaire et il a interviewé les membres survivants de cette unité et il a recueilli leur histoire et il raconte en gros toute l'histoire de cette unité, de sa formation et de comment ils ont entraîné les gars à la fin. Et ce qui est intéressant, ce que je craignais un peu, c'est un côté ultra patriote, ultra américain, ultra pro-armé aussi. Et en fait, pas du tout. Le livre dit clairement que ces gars-là n'ont pas une opinion positive de l'armée. Ils ont globalement détesté l'armée, mais ils ont aimé la camaraderie qu'ils y ont trouvée. Et il y a des idées intéressantes. Par exemple, au début, ils ont un supérieur qui est un vrai connard. Genre vraiment un connard, quoi. Désagréable, mesquin, tout ça. Et du coup, ils se liguent contre lui. La haine commune envers ce gars-là est très forte. Et l'auteur et les survivants se posent la question. On aurait, à ce moment-là, on aurait souhaité avoir n'importe qui d'autre comme instructeur, mais peut-être qu'on aurait été une unité moins bonne si on n'avait pas été soudés par cette haine de cet instructeur injuste. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est
évidemment graphique aussi, c'est la guerre, mais c'était trop bien, je l'ai dévoré, donc merci Crochetats. Et je l'ai regardé en partie pour, enfin je l'ai lu en partie parce que j'ai envie de regarder la série que je n'ai pas encore vue, donc je vais me faire ça quand j'aurai envie de pas passer un très bon moment. Voilà. Ah, Melcel dit, j'ai été full Hercule Poirot et Cujo de Stephen King planqué au Pays Basque avec du jambon. J'étais juste en méfiance de tous les gros chiens, mais baisse vacances. Ah, trop cool. Cujo de Stephen King, c'est un bouquin sur une mère et son fils qui sont coincés dans leur voiture parce qu'ils sont attaqués par un Saint-Bernard. Et le Saint-Bernard a la rage. Et là, tu te dis, ok, bah, et je sais plus pourquoi la voiture, elle démarre pas. Et là, tu te dis, bah, ok, bon. Ça fait peur, mais ils vont bien trouver une solution. Mais le temps passe, il fait très chaud, c'est l'été. Ils sont dans la voiture et il y a un Saint-Bernard. Et ça devient long, voilà. Ça fait peur et c'est, je pense, un des bouquins où il y a les meilleures descriptions de la rage, puisqu'on est plongé dans le cerveau de ce chien enragé. Parfois, il y a des chapitres écrits de son point de vue. Et alors, si vous ne le saviez pas, en dehors du fait que c'est méga mortel, la rage a des symptômes absolument terrifiants. Donc voilà, Cujo, une bonne expérience de vie pour ne pas passer un bon été. J'ai lu un Hercule Poirot qui s'appelle Un chat parmi les pigeons. Ouais, c'est ça. C'est donc un Agatha Christie qui s'appelle Le chat et les pigeons et qui met en scène le fameux Hercule Poirot dans une affaire qui se passe dans une école très réputée pour jeunes filles, la Grande-Bretagne du début du XXe, pour jeunes filles de bonne famille, mais aussi jeunes filles du monde entier qui veulent avoir une bonne éducation britannique, n'est-ce pas ? Ce qui donne l'occasion à Agatha Christie d'être vaguement raciste avec de nombreux peuples et d'être misogyne avec de nombreux types de femmes, surtout celles qui ne sont pas blanches, puisque les orientales font très mature pour leur âge, sachez-le. Angoisse. Et donc ça se passe dans ce pensionnat de jeunes filles, sur fond de tensions géopolitiques dans différents pays, notamment un royaume au Moyen-Orient, et dont l'une des princesses est élève dans ce pensionnat. Et il y a des meurtres au pensionnat, et du coup il va falloir résoudre les meurtres au pensionnat, pourquoi y aurait-il eu des meurtres dans ce pensionnat, pourquoi y avait-il des gens dans le gymnase à la nuit tombée, tout ça. Et Hercule Poirot n'arrive que très tard dans l'intrigue, puisque j'ai vraiment passé les... Si j'avais pas lu la quatrième de couverture qui dit « voilà un mystère pour Poirot », j'aurais pas cru que c'était un Hercule Poirot. Il arrive genre à meurtre 3, un truc comme ça. Mais au troisième meurtre, ouais, t'appelles Hercule Poirot, t'es là « ça fait beaucoup quand même ». Surtout qu'au bout d'un moment, les parents sont là... Alors les parents sont plus flippés que les parents des élèves de Poudlard, qui mettent très longtemps à retirer leur gamin, puisque assez vite, les parents sont là « bon, la gamine, allez, on n'a pas vraiment envie de traîner avec elle, c'est chiant, mais on va la reprendre quand même ». Donc la directrice de l'école est là « Monsieur Poirot, allez, chenelle, chenelle, chenelle !» Et ce n'est pas un bon Agatha Christie. Je suis assez déçue. C'est rare que je tombe sur un mauvais Agatha Christie. Ça explique pourquoi je n'avais jamais entendu parler de ce Hercule Poirot, donc le chat et les pigeons. Il n'est pas très bien, le mystère est très facile à deviner, mais en même temps, t'as des twists pour rien, où t'es là, non, c'est pas la peine. Hercule Poirot n'arrive qu'à la fin, donc t'as même pas le côté, Hercule Poirot dans cet univers qui lui est inconnu, puisque pendant toute une partie, t'as un inspecteur de police, donc tu te dis, bah ok, c'est pas un Hercule Poirot, on va suivre ce gars-là, et en fait, non. C'est raciste, c'est misogyne, enfin voilà, c'est pas le meilleur Agatha Christie, donc vous pouvez peut-être vous en passer. Donc j'ai lu Un chat parmi les pigeons, pas très bon Hercule Poirot, Band of Brothers, très bon bouquin sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu Le Chant de la Mission, un livre de John le Carré. John le Carré, c'est un mec qui écrit des bouquins d'espionnage. Et alors, j'ai jamais lu de bouquin de lui. Il est mort il y a pas très longtemps. Il a été très, très prolifique. Mais j'ai vu une série qui s'appelle The Night Manager, adaptée d'un de ses bouquins. C'est incroyable, The Night Manager. C'est trop bien. C'est dispo, je sais plus sur quoi. Prime? Apple? Je sais plus. C'est dispo quelque part. C'est avec Tom Hiddleston et Hugh Laurie, donc, qui joue au Dr. House. Et c'est terrifiant, c'est donc Tom Hiddleston, il joue un espion et vraiment c'est tendu. J'étais pas bien, mais j'ai adoré. Et donc là j'ai lu un de ses bouquins parce que mon père et ma sœur ont trouvé des boîtes à livres et du coup on fait du troc de livres et ils sont revenus avec un John le Carré et un Mary Gaines Clark. J'ai lu le John le Carré. Le Chant de la Mission, ça se passe au début des années 2000 sur fond de conflits horribles au Congo, massacre juste après le génocide de Rwanda, etc. Blablabla, c'est très tendu. Et le héros, c'est le fils d'un missionnaire britannique qui avait eu un enfant avec une femme congolaise. Et il est donc métis et il a grandi dans une mission au Congo comme beaucoup d'enfants, voilà, qui rappelons que les prêtres et les missionnaires ne sont pas censés faire des enfants parce qu'ils sont censés être abstinents, le secret de Polichinelle était quand même répandu, donc il y avait pas mal d'enfants comme lui qui ont été placés à droite à gauche. Il a fini par venir au Royaume-Uni et il est devenu, en fait, il a un don pour les langues et il connaît plein de langues, notamment du Congo et d'autres pays d'Afrique. Et donc il est devenu interprète pour des cas compliqués, soit des trucs humanitaires en mode on a une personne à l'hôpital qui est très malade et qui ne parle que Swahili et on a besoin d'un interprète Swahili anglais, soit pour des trucs un peu gouvernementaux secrets quoi, ou un peu du business. Et en fait, il est limite embauché par le MI6, enfin c'est l'équivalent, pour une mission de traduction dans un deal assez vénère, al politico business etc, avec différents dirigeants pour l'avenir du Congo. Et ça lui pose des questions morales et d'éthique parce que il est un peu partagé entre son patriotisme britannique, une forme d'ingérence occidentale sur le Congo qui est aussi son pays, blablabla. C'est assez intéressant. Après, je suis pas assez cultivée sur le sujet pour savoir si c'est bien traité cette question très compliquée des conflits dans cette partie de l'Afrique. Mais c'était intéressant et j'avais jamais lu un truc d'espionnage qui se passait dans cet univers-là. Et j'ai adoré le côté interprète et la façon dont il parle de son rapport aux langues et de comment les langues elles te font réagir différemment et tout, trop trop bien. C'était Le chant de la mission de John le Carré. Plus que 2 livres, ok. Et après un que j'ai pas encore lu. J'ai lu, mais ça va aller vite, La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe. Parce que Mike Flanagan, incroyable réalisateur qui adapte Stephen King avec brio et qui est un très bon réalisateur d'horreur à qui on doit The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor et Midnight Mass sur Netflix. Ce réalisateur donc avait un deal pour 4 séries d'horreur sur Netflix. Il en a fait 2, les 2 Haunting. Il a fait Midnight Mass et la 4e va sortir en octobre. C'est The Fall of the House of Usher, en français La chute de la maison Usher, inspiré de la nouvelle éponyme d'Edgar Allan Poe, une grande inspiration pour Mike Flanagan, dont j'aime beaucoup le travail. De Mike Flanagan, Edgar Poe, c'est un peu moins ma came, mais j'en ai quand même pas mal lu et étudié. Donc je me suis dit, comme ils ont sorti le premier aperçu de la série, je me suis dit, tiens, je vais relire la nouvelle pour bien me mettre en jambes et tout. Et alors j'avais complètement oublié que c'est une nouvelle qui dure 3 pages, vraiment. Je l'ai prise sur mon Kindle, c'est gratuit parce que c'est libre de droit, c'est dans le domaine public. Et j'étais là, ah ok, donc c'est... Le narrateur, il revient voir un de ses vieux amis qui vit dans la maison Usher, la maison de la famille Usher. Et en gros, son ami, il est un peu fou, il est malade, il a une sœur jumelle qui est en train de mourir et tout. Il entend des voix, naninana, c'est ultra creep. Et la maison, elle semble chargée d'une énergie maléfique. Donc t'es là, ok, c'est l'histoire d'une maison hantée, comme l'était Bly Manor, comme l'était Hill House. On est carrément dans l'autoroute de Mike Flanagan. Le livre va sûrement me donner des petits trucs croustillants à attendre dans la série. Eh bien non, car c'est une nouvelle vraiment extrêmement brève. Je l'ai fini, j'étais là... Quoi ? J'ai cru que c'était un bug, vraiment. Sans mentir, ça doit durer un truc genre 5 pages. J'ai été vérifier sur Wikipédia, du coup, pourquoi elle est aussi culte, parce que j'ai pas trouvé ça incroyable. Et en fait, c'est une des nouvelles fondatrices du genre qu'on appelle le Southern Gothic, donc le gothique du sud des États-Unis, à une époque où la littérature est gothique et fantastique était principalement trustée par une imagerie victorienne britannique. Là, on a, en gros... Cette nouvelle, elle est fondatrice d'un nouveau genre de la littérature américaine qui s'appelle le Southern Gothic et d'un nouveau genre de l'art américain aussi, qui a été développé entre autres par Edgar Allan Poe. Donc voilà pourquoi elle est aussi connue. Moi, du coup, elle m'a pas subjugax parce qu'elle dure très peu de temps et j'étais un peu genre sur ma faim. Mais voilà, j'ai essayé de faire mes devoirs pour vous parler de la série en ayant bien le titre, le livre en tête. Voilà, ce sera le cas. Et on fera sûrement un live en octobre, du coup, sur The Fall of the House of Usher, qui devrait faire peur. Donc ça va être très librement inspiré. Voilà, c'est juste un canevas de cette maison un peu hantée, de cette famille un peu cursed. Je suis sûre que ça va être très bien ce que Mike Flanagan en fait. Ok, Traficote nous dit « En roman policier cet été, j'ai lu la série Le Murder Club du jeudi de R. Haussmann. Très original et drôle, c'est un groupe de vieux dans un village de retraités qui résolvent des meurtres et embêtent la police. Une des petites vieilles est une ancienne espionne du MI5, c'est super, je recommande. » Trop bien Traficote, ça a l'air vraiment super. C'est 100% ma cam. Je pense que je vais les choper pour mes vacances en Bretagne à la fin du mois. Dernier livre, j'ai lu... La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Un indice chez vous, c'est le dernier opus de quelle saga ? Hunger Games. Ils vont faire un film, évidemment, qui sort lui aussi en octobre. La première bande-annonce est sortie. Je n'aime pas regarder les bandes-annonces des films parce que je n'aime pas savoir ce qui va se passer dedans. Mais j'adore voir adapter des mondes imaginaires. Du coup, et j'aime bien Hunger Games en vrai. Je trouve que Hunger Games, c'est une saga qui a beaucoup de mérite et qui a vraiment un regard politique assez affûté au final et qui fait des choses intéressantes avec ses personnages, notamment féminins, avec son héroïne Katniss. Donc j'aime bien Hunger Games, j'aime bien les films, j'aime bien les livres. Et j'avais vu que La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur était sortie il y a quelques années, en 2019 ou 2020. C'est un préquel de Hunger Games qui se focalise sur la jeunesse du président Snow. Donc le président Snow dans Hunger Games, c'est le chef du Capitole, c'est les méchants, hein, globalement, c'est le système, c'est 1984, c'est Big Brother, c'est l'homme à qui on doit la cruauté des Hunger Games, il les a pas inventés mais il les a bien vénères. Et c'est l'ennemi de Katniss, l'héroïne, et l'ennemi du peuple, hein, globalement. Il était très bien interprété dans les films par Donald Sutherland, et c'est un personnage que je trouve intéressant, et j'étais plutôt partante pour « Tiens, c'est intéressant de faire un préquel sur sa jeunesse et sur comment on devient ce monstre-là. » Parce qu'en plus, dans Hunger Games, les habitants du Capitole sont quand même, pour la plupart, assez caricaturaux, dans l'excès, dans une forme de sociopathie totale, où voilà, ils regardent des gamins s'entretuer, ils sont là, on s'en fout, c'est pas des personnes et tout. Il y en a quelques-uns qui sont sympas, mais il y en a quand même beaucoup qui sont juste des monstres. Et du coup, humaine, enfin, comprendre mieux peut-être le plus monstrueux, en tout cas le plus puissant d'entre eux, c'est cool. J'avais pas lu le livre à sa sortie, je l'avais vu passer, je me suis dit, bon, je verrai, ils en feront sûrement un film, ils en ont fait un film, et du coup, je me suis dit, ah bah, je vais le lire, tiens. Comme ça, je pourrais regarder le film en disant, ouh, c'est comme ça qu'ils ont adapté ça. Et donc, j'ai lu La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Moqueur, de l'Oiseau Chanteur, pardon. L'Oiseau Moqueur, c'est dans Hunger Games. Franchement, c'est pas mal. J'ai vu qu'il avait pas conquis tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que, en fait, c'est intéressant parce que c'est raconté du point de vue de Snow, donc le jeune Snow qui, quand on commence le livre, il est adolescent. Il est à l'académie, donc un genre d'université du Capitole. Et en fait, sa famille était riche, très riche, mais il y a eu la guerre. Donc, il y a eu une guerre entre une rébellion des districts contre le Capitole. C'était 10 ans avant que le livre commence. Le Capitole a maté la rébellion en envoyant plein de soldats, dont le père de Coriolanus Snow, qui est mort à la guerre, et sa mère est décédée aussi à cause de la guerre. Et ils ont fini par bombarder, raser totalement de façon nucléaire le district 13, donc il n'y a plus que 12 districts. Et ils ont, voilà, le Capitole a gagné la guerre, et à l'issue de cette guerre, ils ont créé les Hunger Games pour rappeler au district de bien se tenir en place. Bah, ils les forcent à envoyer des enfants se battre à mort dans une arène. Voilà, c'était le début des Hunger Games. Et donc le bouquin, le préquel de Hunger Games se passe 10 ans après cette guerre, donc le Capitole est encore à moitié en ruine et la famille Snow est ruinée parce qu'ils ont investi dans le mauvais district pendant la guerre et du coup mais ils le cachent à tout le monde, mais donc Corio, comme ses amis l'appellent parce que son prénom est beaucoup trop long, le futur président Snow, il est en Hesse, il est en galère et il fait partie d'une innovation du Capitole. Pour la première fois à l'occasion des 10e Hunger Games, il y aura des mentors. Et oui, tout comme il y a actuellement des mentors, eh bien, des jeunes gens du Capitole vont se voir assigner un ou une esclave qui va être obligée de se battre à mort dans les Hunger Games pour essayer d'améliorer l'intérêt du public pour ces jeux, parce que pour l'instant, tout le monde s'en bat les couilles. C'est pas du tout le spectacle que c'est dans Hunger Games. Les gens s'en foutent, même au Capitole, ils aiment pas trop regarder. Il y a pas genre naninana, ouais, la reine, t'as vu, c'est une horloge, et il y a des districts qui se ferment et tout. Non, on les met dans un stade en ruine, on leur donne des bâtons et ils se tapent dessus, les gamins, et à la fin il y en a un qui est pas mort, quoi. Et après il rentre chez lui, il y a pas tu gagnes le village des vainqueurs et tout, c'est vraiment une version extrêmement épurée des Hunger Games. Et le Capitole a décidé de mettre ses adolescents, pourquoi je ne sais pas, à disposition pour rendre le spectacle un petit peu plus prenant, voilà. Et du coup Coriolanus Snow fait partie de ses mentors, donc il doit à la fois trouver des idées pour rendre les Hunger Games plus divertissants et que les gens les regardent. C'est lui qui a notamment l'idée de mettre des paris sur qui va survivre aux Hunger Games, ce qui sera une des raisons de leur succès. Et il doit aussi accompagner, du coup, une personne qui a été choisie, obligée de participer aux Hunger Games, et il se retrouve à encadrer une meuf qui s'appelle Lucy Gray, qui est, je vais pas tout vous raconter toute sa vie, mais qui est une meuf un peu pas comme les autres, quand même, et qui a pas forcément des méga chances de gagner, mais voilà, il va y avoir, ça va quand même challenger un peu sa vision du monde, puisque c'est la première fois qu'il est au contact de gens qui viennent des districts et tout. Et bah, le livre, c'est comment ce jeune homme qui commence en n'étant pas encore un monstre devient celui où on sait que ça va finir par être un être monstrueux. Il y a évidemment plein de clins d'œil à Hunger Games. On comprend plein de choses où quand tu relis Hunger Games après, tu fais « Ah, c'est pour ça qu'il est vénère, en fait, contre Katniss. » D'accord, c'est parce qu'il a ses propres traumas qu'il a jamais gérés. Franchement, c'est pas mal. Le livre est en trois parties. Il y a un gros shift à la troisième que j'ai trouvé pas inintéressant. Et j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter en film. J'ai regardé la bande-annonce, du coup, maintenant je l'ai lu. Et ils ont une esthétique rétro-futuriste 50s qui est assez cool, avec plein de trucs en marbre et tout. Le Capitole est un peu moins zinzou que dans Hunger Games, puisque ça se passe quand même 60 ans avant, juste après la guerre. Et l'acteur qui joue Coriolanus Snow a l'air pas mal. Et la meuf qui joue Lucy Greybird, elle était dans West Side Story, la comédie musicale. Et ça tombe, enfin, le film de Spielberg. Et ça tombe bien, puisque elle joue un personnage qui chante. Voilà, Lucy, c'est une meuf qui chante. C'est ça, son talent spécial. Pita savait se peindre en caillou. Elle, elle chante. Est-ce que ça sert à quelque chose dans l'arène? Nous le verrons au cinéma en octobre. Voilà, ça va être rigolo. Voilà, c'était mes lectures de l'été. Enfin, d'une semaine de vacances. Vous voyez, quand je me mets à quelque chose, je m'y mets sérieusement. J'ai aussi fini... Ah, et alors, mon daron m'a récupéré ce livre parce qu'il s'appelle « Personne ne t'a demandé d'écrire un roman », ce qui est déjà vexant, mais ça me va très bien. Et c'est un bouquin de Alison Lurie, qui est une autrice et penseuse féministe américaine que je connaissais pas du tout. C'est une collection de petits textes inédits, de petits essais sur différents sujets féministes. Voilà, je l'ai pas encore lu, mais je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai fini de lire un livre de droite aussi qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». C'est un livre de développement personnel, de productivité de Tim Ferriss, qui est un auteur et entrepreneur en full TED Talk Energy, vous voyez. Qui a sorti ce best-seller il y a déjà quasiment 20 ans, où donc ça s'appelle « La semaine de 4 heures ». Et l'idée, c'est « Et si vous ne pouviez ne travailler que 4 heures par semaine, kiffer ce que vous faites, travailler de où vous voulez et faire ce que vous voulez du reste de votre temps et gagner de la thune ?» Eh bien, vous le pouvez en achetant mon livre. Et en vrai, je l'ai lu. Alors, il y a des trucs vraiment trop de droite pour moi et aussi des trucs qui sont plus trop d'actualité peut-être en 2023, notamment des questions de voyager autour du monde et tout. Je suis là, l'empreinte carbone, frère, quand même, calmons-nous. L'inflation aussi. Mais il y a des choses vraiment pas inintéressantes sur le rapport au travail, à qu'est-ce que c'est que le travail, le rapport à l'argent, la tendance qu'on a à s'occuper en fait, à faire plein de tâches au lieu de juste les déléguer ou les éliminer. Il y a cette idée de tu fais 80% de tes résultats avec 20% de tes efforts, donc autant privilégier ces efforts-là et ces tâches-là. Bref, c'est assez intéressant. Et je l'ai lu pour en faire un résumé, voilà, pour une plateforme dont je vous parlerai. C'est pour le travail, mais j'ai aussi accepté cette mission en me disant, bah, moi, je vais sûrement moi aussi apprendre des trucs. Et en vrai, étant indépendante, en partie pour une raison très claire qui est travailler moins pour gagner autant, voire plus, j'ai appris des trucs intéressants. Voilà, c'était pas mal. Ah, et Fab nous dit, il est beaucoup moins là-dedans maintenant. Oui, voilà, lui aussi, il a pris 20 ans dans la vie. J'aimerais bien qu'il fasse une mise à jour à l'aune de la façon dont il a évolué. Bah ouais, ce serait intéressant. Mais même 20 ans après, il y a quand même, enfin 15 ans après, il y a des choses intéressantes à piocher dans ce bouquin. Ouf, ok, on m'a bien parlé. On va passer sur Reddit, mais juste avant ça. À propos d'Agatha Christie, est-ce que t'as vu And Then There Were None? Oui, tout à fait, je l'ai vu. L'excellente adaptation par la BBC du titre qu'on connaît en France sous le titre Il n'en restait plus que 10, hein, je crois que c'est le nouveau titre, et qui est mon bouquin préféré d'Agatha Christie. Je ne suis pas une personne très originale, qui est un bouquin qui me fait peur. Genre, en vrai, je stresse, ça me terrifie cette histoire. C'est 10 personnes réunies sur une île, et elles meurent les unes après les autres. Genre, elles sont assassinées les unes après les autres. Et t'es là, en fait, qui c'est qui les tue au bout d'un moment, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait trop bader. Et l'adaptation de la BBC est excellente. Vous y retrouverez notamment Charles Dance, incroyable Tywin Lannister, dans un de ses meilleurs rôles, je pense. Voilà. On va aller lire Reddit, ok? En plus, j'ai peut-être raté des trucs d'actu, parce que je vous avoue que j'ai fait pas des vacances, genre, déconnectées. Hein, mais j'étais pas extrêmement assidue sur l'actu, car j'avais envie de passer des bons moments. Voilà, donc on va aller voir si j'ai raté des trucs dans l'actu française. Depuis Reddit, on va aller faire Ask Reddit France, Ask Meuf, Ask Mec. Des maisons de disques réclament 412 millions d'euros à archive.org pour des 78 tours d'artistes décédés. Est-ce que la propriété privée, c'est le vol? Nous pouvons en parler. Ensuite, on a de la pub. Épidémie de magnétisme en France. Ah, ok, on va parler pseudo-science. Ah, c'est ma passion. Donc il y a eu, je vais vous donner le contexte, hashtag contexte. Donc il y a eu une question sur Reddit France qui était sur la montée du magnétisme et des énergies, des pseudo-sciences et tout en France. Donc la personne demande sur Reddit il y a 16 heures. Depuis quelques années, il y a comme un raz-de-marée de magnétisme dans mon entourage, c'est assez déroutant. La famille de ma femme ne jure plus que par ça, sa tante est énergéticienne, sa mère fait de la lithothérapie, tout le monde consulte des magnétiseurs et autres régulièrement. Un de ses cousins est en train de se découvrir des pouvoirs de passeur d'âme, etc. J'ai déjà essayé d'en parler avec eux, peut-être en manquant de tact, et ça ne s'est pas très bien passé, donc on évite le sujet quand je suis dans sa famille maintenant. Récemment, un de mes meilleurs potes a abandonné ses études de psychologie alors qu'il venait de s'y lancer en mode reconversion à 37 ans pour se lancer en plein temps en tant qu'énergéticien magnétiseur après avoir rencontré des gens qui lui ont révélé qu'il était médium. On revient d'une semaine de vacances dans le sud avec une bonne douzaine de copains et cet ami était présent. Il a proposé de faire des soins énergétiques à tout le monde, gratuitement bien sûr, et ça a un peu clivé les gens présents. À mon grand étonnement, une bonne moitié des gens y croyaient, essentiellement des femmes étrangement, on en parlera. Et l'autre non, ce qui a donné lieu à des débats un peu enflammés tout au long du séjour. En gros, les pour accusent les contre de manquer d'ouverture d'esprit et de ne jurer que par la science, qui selon eux ne peut pas tout comprendre. Et les contre accusent les pour de se faire exploiter leurs croyances par des mouvements charlatans qui leur vendent un effet placebo glorifié. Étant plutôt sceptique de ces choses-là, j'avoue être inquiet par le nombre grandissant de personnes dans mon entourage qui y croient. Je comprends bien que ça leur fait du bien, mais ces thérapies alternatives n'ont jamais réussi à produire une seule preuve d'efficacité, donc ça m'embête de voir des gens tomber dedans. Est-ce que je me prends la tête pour rien ? Est-ce que vous avez le même genre d'expérience avec votre entourage ? Qu'est-ce que vous en dites déjà sur le chat ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi dans votre entourage ? Est-ce que c'est peut-être des choses auxquelles vous croyez personnellement ? Des choses... qui peuvent rentrer, donc là la personne parle de magnétisme, d'épidémie de magnétisme, mais en vrai c'est un terme plutôt fourre-tout que la personne utilise pour parler voilà, d'énergie, de, en tout cas de, d'ésotérisme, de différentes croyances ésotérisme qui sont pas ésotériques, qui sont pas réunies sous l'angle d'une même spiritualité, d'une même religion, mais qui peuvent s'apparenter à des pouvoirs et des énergies invisibles, voilà, il parle de... d'énergéticiens, il y a les médiums, il y a les pierres, la lithothérapie, il y a les bouteurs de feu, les magnétiseurs, les choses comme un passeur d'âme, voilà. Beaucoup de choses assez différentes. Merci beaucoup Sakura, à bientôt, merci d'avoir été là et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu reviendras.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Donc la personne parle du fait que, alors moi dans mon entourage c'est quelque chose que je vois de plus en plus, mais je sais pas si c'est parce que il y a de plus en plus de gens qui y croient ou parce que le sujet vient de plus en plus sur la table. Par exemple, j'ai une de mes très bonnes amies qui croit à l'astrologie de fou, et c'est ma meilleure amie depuis plus de 10 ans, et je pense qu'elle croit à l'astrologie depuis plus de 10 ans. Mais je l'ai appris entre guillemets qu'il y a quelques années, quand avec la montée à la mode là de l'astrologie des Astro Girls et tout, quand ça a arrêté d'être juste l'horoscope de Madame Soleil sur les chaînes pour personnes retraitées, quand le sujet de l'astrologie est venu dans le débat public et qu'on s'est mis à en parler, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même rapport à l'astrologie, parce que moi je n'y crois pas. Donc voilà, c'est pas forcément qu'il y a plus de gens, c'est juste que je l'apprends plus. C'est pas des gens où je me dis avant ils y croyaient pas, maintenant ils y croient. Je connais quelques personnes qui ne croyaient pas à des trucs et qui maintenant y croient, ça arrive. Il y en a peut-être dans ce chat. Et effectivement c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez les femmes, notamment pour le coup parmi les lectrices de Mademoiselle, etc. Et je pense que ça s'explique alors en partie par le fait que c'est souvent les femmes vont être éduquées à être plus dans l'intuition, plus dans l'émotion, plus dans les énergies douces, etc. À être plus dans une forme de sensibilité, de lien à la nature aussi, qu'on peut leur associer par il n'y a rien de biologique hein, là-dedans, mais par association d'idées, on va dire, un petit peu genrée. Les femmes sont aussi régulièrement mises de côté par la science et la médecine traditionnelle, qui trop souvent ne prend en compte que les corps masculins et les douleurs masculines. Et du coup, ça peut aussi les pousser à se tourner vers ces solutions alternatives. Et souvent, ce qu'on entend de gens qui consultent ce genre de praticiens autour des énergies, des médecines douces, des solutions alternatives, c'est au-delà de est-ce que le soin il marche ou pas, en fait j'ai été écoutée, j'ai été respectée, j'ai été pris au sérieux, ma douleur a été comprise, mon inquiétude a été comprise et je me suis pas retrouvée face à un soignant ou une soignante qui me déshumanise, qui m'expédie en 10 minutes, etc. Donc voilà, il y a aussi ça, et on n'est pas là pour juger les gens qui croient à des trucs, tout comme je juge pas mes tantes qui croient en Dieu. Mais c'est intéressant, s'il y a une montée de tout ça, et peut-être que c'est d'ailleurs une réponse à... Je parlais de croire en Dieu, il y a de moins en moins de personnes qui sont dans les religions monothéistes, peut-être qu'il y a une envie, un besoin de trouver du sens à un monde qui n'en a pas toujours, qui vient aussi de... qui peut aussi expliquer... que là où la religion monothéiste, donner des réponses à certaines questions, pourquoi on est là, pourquoi certaines choses se passent, quels sont les pouvoirs qui sous-tendent l'univers, d'où vient la vie, etc., qu'est-ce qui se passe après la mort, bah là où c'est plus forcément la religion la réponse évidente, on a d'autres formes de spiritualité qui vont permettre de trouver des réponses à ces questions qui peuvent être une grande source d'angoisse pour plein de personnes. Et moi-même, je dis je crois en rien, en fait je crois à la science. Ma réponse à qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est pas je ne sais pas et je suis ok avec pas savoir, c'est je pense qu'il n'y a rien parce que la science dit que a priori il n'y a rien. D'où vient la vie, je me dis pas j'ai pas besoin de savoir, je me dis la vie vient d'eux, il y avait des bactéries, un shit, blablabla, fast forward les dinosaures, fast forward les humains. Vous voyez quoi? Luce nous dit « Pas les magnétiseurs, mais beaucoup de mes amis consultent des voyantes en y croyant. » Jimmy nous dit « J'ai plein d'amis qui croient à ça, je leur dis rien, juste que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et eux refusent de me lâcher la grappe tant que j'ai pas abondé dans leur sens. » Ça, c'est être relou, hein, finalement. « Le simple fait d'utiliser le verbe croire, ça renvoie à la religion pour moi. » Bah oui, bah, c'est parce que c'est des croyances, quoi. Je vois pas comment dire autre chose que croire. L'important n'est-il pas que ça finisse par faire du bien aux patients ? Pour moi, il y a une... La fin ne justifie pas toujours les moyens. Et l'effet placebo est réel. Et du coup, si on croit en un truc et qu'on a l'impression que ça nous fait du bien, bah parfois, il y a des vrais effets positifs sur le corps et l'esprit. Donc ça, c'est très bien. Il y a des symptômes qui s'atténuent, qui disparaissent et tout. Mais je pense que, en fait, c'est une pente glissante quand tu commences à croire à des trucs qui ne sont pas prouvés et à payer des gens pour qu'ils te fassent un truc sans pouvoir prouver que ça marche. Déjà, comment tu fais la diff entre les charlatans et les pas charlatans ? Voilà, déjà. Parce que bah, pour moi, c'est tout faux. Donc je ne peux pas croire quelqu'un qui me dit « je suis médium ». Je crois qu'il y croit. Je peux pas croire que c'est vrai parce que je pense pas que ça existe. Et qu'est-ce qui fait que ok tu payes un naturopathe et ensuite tu payes une magnétiseur et ensuite blablabla bla bla, et tu finis par dépenser beaucoup d'argent dans des trucs qui ne sont pas prouvés. Et sur si t'en fais 10, il y en a peut-être un qui va te faire du bien. Mais c'est aussi pour plein de personnes vulnérables un gros risque quoi. C'est pas remboursé, c'est pas suivi. Tu peux avoir des c'est pas des choses qui demandent aussi un gros encadrement pour le devenir. Enfin, tu fais pas 10 ans de médecine pour ça. Donc t'as quand même des personnes fragiles et vulnérables qui vont aller voir d'autres gens et se remettre dans le à leurs soins, qui sont des gens qui ont une formation parfois d'environ une vidéo YouTube de 2 heures. Donc ça pose quand même pour moi des questions. L'important n'est pas juste que ça finisse par faire du bien, parce que faire du bien, ça veut dire quoi ? Et faire du bien de façon ponctuelle n'est pas forcément faire du bien au sens large. Voilà. Loud nous dit « Ça me rappelle quand je cherchais une psy dans ma ville et que j'ai découvert que plein de profils sont des psychologues cliniciennes et énergéticiennes. Perso, ça me fait fuir, c'est de l'ordre de la croyance. » C'est pareil, j'ai une pote qui a découvert pendant le Covid que sa psy était anti-vax. C'était un peu pareil, j'étais là « Je pense pas que je pourrais faire confiance à une personne qui croit à des trucs pas scientifiquement prouvés pour prendre soin de moi. » Je ne pense pas. Cela dit, si la pratiquante et le client croient à fond en ça, je me dis que ça peut faire comme un placebo qu'ils ne découvriront jamais, mais qui les aura peut-être aidés. Du coup, je suis très mitigée. Pour moi, c'est un non, car je remets trop en doute les choses. Ok, je pense qu'on est aligné là-dessus, Loud. Ma mère a une amie magnétiseuse qui lui a fait des séances. J'ai la même opinion que la personne qui écrit. Ma mère était entre deux, à rouler des yeux et en même temps à dire que ça lui a fait du bien, mais ça n'a duré qu'un temps. Et Maïsaki dit oui, ok, totalement le soin du patient, mais parfois il y a des praticiens qui en profitent pour arnaquer les patients. Cadlo nous dit « Je suis allée voir une coach en dev perso qui m'a dit que mes problèmes de sous et le fait que je ne me sente pas bien vient tout simplement du fait que j'ai un mauvais mindset et compare ma situation avec sa pote entrepreneur qui faisait des millions en chiffre d'affaires. Après ça, j'ai eu mal à lui donner de la crédibilité. » Ouais, là, c'est autre chose. C'est pas de l'ésotérique. C'est de la vision du monde, finalement. Il y a énormément de personnes qui croient aux énergies, à un certain pouvoir, qu'il existerait des personnes qui voient ou qui sentent des choses. C'est un phénomène sociologique observé, nous dit Ezoc, qu'il y a un déplacement de la religion vers des spiritualités alternatives. Voilà, donc cette idée de... c'est aussi parce que la religion est moins la réponse qu'on trouve des réponses ailleurs. Ah bah, Crushtats dit « Ce qui m'emmerde avec les gens qui croient aux pseudo-sciences, c'est qu'ils mettent la science pure au même niveau que des croyances. Et du coup, ils transforment des faits scientifiques en opinions, ce qui crée un anti-scientifisme forcené. » Ouais, c'est un peu l'idée de pente glissante que j'amenais, quoi. À quel moment, si tu te mets à croire à des trucs... sans pouvoir comprendre, sans que la science puisse expliquer comment ça marche, pourquoi ça s'arrêterait à un moment ? C'est quoi la différence entre les trucs auxquels tu crois qui sont ok, c'est pas grave, ça te fait du bien, et les trucs auxquels tu crois qui sont craignos ? I don't know. Cadlo nous dit, c'est aussi des milieux hyper essentialisants. Souvent, ouais. Moi, je pense notamment à l'essentialisation des femmes et du genre féminin. Est-ce que t'as d'autres exemples en tête ? Et Etsumio dit quid des ostéos ? Eh bien, personnellement, je n'irai pas consulter d'ostéo, car je sais que ce n'est pas scientifiquement prouvé. Et j'irai tout simplement consulter un kiné, si j'ai des problèmes de type qui nécessitent un ostéo. Voilà. Ou alors, j'irai me faire masser dans un salon de massage qui ne prétend pas être un médecin ou un professionnel de santé, mais juste, salut, on est payé pour faire des bons massages. Je serai là, cool. Est-ce qu'il y a des médiums sur Twitch? Je sais qu'il y a des gens qui tirent les cartes sur Twitch, Birdseye. Après, je sais que tirer les cartes, c'est aussi utilisé comme un truc d'introspection et de méditation et un outil, un support en gros, comme pourrait l'être un carnet où on note ses pensées. Pas forcément comme un outil divinatoire. On croit pas forcément qu'il y a une force divine ou une force supérieure qui nous amène les cartes. C'est plus, ok, on tire les cartes et on observe comment on réagit à la signification potentielle du tirage. La foi, par définition, c'est pas rationnel. Tu crois et t'as pas besoin de démontrer pourquoi tu crois. Par contre, quand ça implique beaucoup de pognon ou d'arrêter des traitements, il y a un problème. Ouais, ça commence à où, beaucoup de pognon? Quid de la psychanalyse? Eh bien, je n'irai pas consulter un ou une psychanalyste non plus, quoi. Tu mets ton énergie dans des choses qui ne fonctionnent pas vraiment au lieu de te concentrer sur ce qui marche sur le plan médical. Bah après, il y a des gens aussi qui se tournent parce que soit la médecine traditionnelle ne peut pas forcément les aider, soit voilà, le milieu médical n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils en attendaient. Donc je comprends aussi qu'on puisse... Enfin, je vais pas juger des gens qui, surtout parce qu'ils sont dans une forme de détresse ou de vulnérabilité, se tournent vers ça. Maïwen nous dit « Je me suis éloignée d'une amie à cause de son business exactement comme ça. Elle a fait une semaine de formation et maintenant elle critique les psys en disant qu'elle arrivera mieux à aider les gens. L'audace ! Je ne peux plus être amie avec elle. Pour elle, ce sont vraiment des clients, pas des patients. » Le phénomène un peu dans ce genre qui m'inquiète, nous dit Untitled Broccoli, ce sont les doulas. Donc les doulas, c'est des gens, notamment des femmes, qui accompagnent les personnes qui sont enceintes et qui accouchent, qui sont un peu comme normalement des suppléments aux sages-femmes, qui peuvent avoir des pratiques plus ésotériques, plus dans les énergies, mais qui normalement proposent aussi juste un autre type d'accompagnement en étant là pour la personne, généralement une femme, qui attend un enfant, qui va accoucher, elle peut être là pendant l'accouchement, etc. Mais effectivement, les doulas n'ont pas la même formation que les sages-femmes et encore moins que les médecins, chirurgiens, obstétriciens, etc., obstétriciennes. Donc elles ne peuvent pas prodiguer le même accompagnement et les mêmes actes médicaux. Donc ça peut être en supplément. Et c'est ça qu'on disait, c'est que le risque avec ces énergies, ces pseudo-sciences, c'est quand elles commencent à se substituer à des choses médicales, à prendre la place où les gens vont se tourner vers ça avant de chercher s'il n'y a pas un traitement dont l'efficacité est prouvée qui peuvent les aider. Là où c'est en... Quand c'est en complément d'un traitement médical plus traditionnel ou d'un suivi thérapeutique, ça peut être tout à fait bienvenu. On n'est pas non plus sur le chat le plus fermé d'esprit du monde. Nita, toi, tu estimes qu'il y a certaines choses qui marchent pour toi. Je crois que c'était le magnétisme. Et tu dis, tu n'es personne et personne n'est personne pour nier ce fait ou le qualifier d'effet placebo. T'en sais rien, c'est du placebo ou pas. On ne sait pas si c'est du placebo ou pas, mais on sait la science. Pas moi spécifiquement. Voilà, la science dit « je ne peux pas prouver ». Pourquoi ça marche et comment ça marche. Donc ça marche, ça peut être un effet placebo, ça peut être un type d'énergie et de pouvoir qu'on n'a pas encore découvert, que en fait peut-être qu'un jour la science dira waouh, en vrai les sourciers vous avez raison. Genre il y a un vrai truc, tac tac dans le cerveau de certaines personnes, bam bam, l'eau, tu la sens. Et bah ça sera top et je serai là bah incroyable, les sourciers ça marche et du coup ouais, peut-être qu'un jour je serai là bah j'ai besoin de trouver un puits sur ma propriété qui a besoin de ça pas moi. Je vais donc payer un sourcier parce que c'est legit reconnu par l'État quoi. Et mais par contre, il faudra aller prouver avec un test que t'as vraiment le pouvoir parce que sinon bah n'importe qui peut dire ouais, donne-moi 100 balles et je te trouve de l'eau, tu vois. Et je suis là bah OK, mais tu m'as pas trouvé d'eau, il est là. C'est le pouvoir du sourcier, on décide pas, peut-être il y a pas d'eau. Je serai là OK, c'était quand même 100 balles. Donc voilà, c'est la pente glissante. Et alors je vois que sur le chat, vous étiez là en mode « Mais c'est quoi le rapport avec le tarot, la cartomancie et tout ?» Ça rentre dans des ensembles de croyances. Après, effectivement, faut pas tout mélanger. Les gens qui vont voir un naturopathe ne sont pas forcément les mêmes gens qui croient que leur grand-mère décédée va leur parler via une planche de Ouija, qui ne sont pas les mêmes gens qui vont aller voir un ostéopathe parce qu'ils ont un problème de dos, qui ne sont pas les mêmes gens qui vont aller faire un pèlerinage à Lourdes. Je voyais que ça en parlait sur le chat. Donc c'est sûr que il faut pas tout mélanger et en même temps c'est des systèmes de croyance. C'est des moments où on est prêt à croire à des choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées, voire à dépenser de l'argent pour obtenir un résultat sans avoir de garantie que normalement oui c'est ça qui se passe. Et aussi bah c'est des choses qui sont très peu encadrées par rapport à la médecine traditionnelle. Il y a pas besoin de faire des années et des années d'études. Il y a pas d'ordre des médecins naturopathes, en tout cas pas aussi sérieux que l'ordre des médecins. Donc c'est compliqué. C'est des gens qui, enfin en fait demain je peux me prétendre beaucoup de choses et faire payer beaucoup de gens pour des conseils que je ne suis pas habilité à donner. Et il y a des gens vulnérables qui, si demain je mets une plaque énergéticienne, il y a des gens qui vont pas bien, qui vont venir me voir parce qu'en plus je suis pas mauvaise en marketing pour que je règle leurs problèmes alors que je n'ai aucune légitimité à le faire. Et peut-être qu'il y en a que je vais aider parce que je suis pas que con. Et peut-être que pour les aider, je vais faire un peu d'esbrouf et poser mes mains au-dessus de leur plexus solaire et leur dire que c'est ça qui fait qu'ils se sentent mieux et pas avoir parlé pendant une demi-heure de leur daron. et je vais peut-être les faire payer 200 balles. Et en fait, je pourrais faire ça, mais je trouve pas que ce serait éthique. Et il y a des gens qui font ça parce qu'ils sont persuadés, parce qu'ils y croient, parce qu'ils pensent qu'ils ont un pouvoir, qu'ils savent faire des choses et qu'ils aident vraiment les gens. Il y a des gens qui savent que c'est du bullshit. Il y a des gens qui sont entre deux. Et c'est compliqué, en fait, pour moi, tu peux pas trier le bon grain de livret si tu regardes pas en face le fait que, comme c'est pas prouvé, qu'est-ce qui empêche le charlatanisme? Qu'est-ce qui empêche l'abus, quoi? Et je dis pas qu'il y a pas d'abus dans la médecine traditionnelle, il y en a, et on lutte contre, et on la dénonce, notamment dans les milieux féministes. C'est pas pour qu'on dise, ok, n'importe qui peut demander 200 balles à quelqu'un pour lui tirer les cartes et lui révéler son avenir, sans se poser la question de l'éthique, en fait, et de la morale derrière tout ça, quoi. Et après, encore une fois, l'idée n'est pas de juger les gens qui ont des croyances, les gens qui font appel à ce type de praticien ou de praticienne, ou qui le sont eux-mêmes, mais d'essayer de se comprendre entre personnes qui viennent vraiment au sujet de deux directions très très opposées, quoi. Oui, et quelqu'un sur le chat disait l'effet placebo vient aussi avec un contexte, et un professionnel de santé en blouse blanche qui te prescrit l'homéopathie, c'est des petites boules de sucre. T'as plus de chances d'avoir un effet placebo sur les symptômes de ta crève que si c'est ton pote qui te donne un carré de sucre, parce que ton pote, tu sais qu'il est pas médecin, etc. Mais je pense quand même, personnellement, que c'est malhonnête de ne pas dire il n'y a pas d'effet prouvé dans ce truc. C'est un effet placebo. L'effet placebo peut marcher quand on sait que c'est un effet placebo, c'est réel. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc en fait, pour moi, le médecin devrait, en transparence, dire « Je peux vous prescrire de l'homéopathie. Il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne. C'est littéralement du sucre avec de l'eau. » Mais il y a des gens sur qui ça marche, avec l'effet placebo. Donc, est-ce que vous en voulez? Plutôt que de prescrire des trucs, et en arrivant à la pharmacie, tu te rends compte que c'est de l'homéopathie. Et je suis d'ailleurs très contente que l'homéopathie ne soit plus remboursée par la Sécu, parce que... calmons-nous, quoi. Alors, 44 Licton dit... Du coup, si ta justification qu'il faut faire attention à ça à cause de l'influence, l'argent, comment tu expliques les mêmes choses avec des gens que tu pourrais côtoyer et qui ne le font pas pour l'argent? Exemple, un sourcier qui trouve de l'eau pour de vrai et c'est ton pote. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans leurs proches des personnes qui auraient des pouvoirs, qui sentiraient des énergies, que ça soit des sourciers qui trouvent du coup de l'eau, des bouteurs et des bouteuses de feu qui sont des gens qui, par apposition des mains, il me semble, pourrait atténuer, soigner des brûlures, d'où le nom bouteur de feu, des magnétiseurs, des médiums, voilà, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent une pote de pote, ma cousine, ma grand-mère, moi-même, dans ma famille, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Et ces gens ne font pas forcément payer, et ces gens parfois ne font pas du tout publicité de leurs dons, et parfois même ils ont l'impression de le subir. Je pense que ces gens sont sincères, et je pense que ces gens sont persuadés d'avoir un truc, et je pense que parfois ça marche, et je ne sais pas expliquer pourquoi ça marche. Soit c'est littéralement de la chatte, parce que tu peux réussir tous tes jets de dés, ça se reset à chaque fois. Soit c'est un truc qu'on peut pas encore expliquer. Soit c'est un biais de... comment dire ça, un biais de sélection où tu te rappelles que des fois où ça a marché. Soit c'est des... quand c'est par exemple des médiums ou des prédictions, bah c'est des termes assez vagues pour que... c'est quoi l'effet où... c'est assez, bah, le truc de l'horoscope où c'est tellement vague que tout le monde peut se sentir concerné, quoi, tout le monde peut s'identifier. Et ça peut être une puissance qu'on ne comprend pas encore. Encore une fois, c'est possible. Peut-être qu'il y a des gens qui, ont un don pour sentir quand quelqu'un va bientôt mourir. Peut-être qu'il y a un truc chimique, physique qui se passe. Et le jour où la science dit « yes, on a fait des tests en double aveugle, méthode scientifique, nani nana, ça marche. » On ne sait peut-être pas pourquoi, mais oui, ça marche, je serais là, top. Donc je ne pense pas que ces gens-là... Je pense que ces gens-là sont sincères. Et je ne sais pas expliquer pourquoi ils savent faire ce qu'ils font. Mais je ne peut pas croire à leur explication tant qu'elle n'est pas scientifiquement prouvée, et j'ai du mal à croire à la... effet Barnum, ouais, tout à fait, merci. Et j'ai du mal à croire à la réalité de ces dons, et même si on me le montre et que ça marche, je serais là, ok, ça a marché, mais je ne peux pas prétendre que ça a marché pour la raison que tu invoques, qui est, je ne sais pas, que tu as un pouvoir pour prédire la mort des gens. Ça marche, pour une raison que je ne connais pas, mais tu n'as pas plus la réponse que moi. Et au-delà du risque de l'argent, pour moi, c'est aussi, voilà, quand on se met, et je le disais au début du live, avant que vous arriviez, que vous soyez plein, pour moi, le risque, c'est aussi, voilà, quand on se met à remettre en doute la réalité scientifique des choses, où est-ce que ça s'arrête? On parlait, bah, par exemple, en fait, tu commences à lire ton horoscope pour rigoler, et puis tu te mets à croire un peu à l'astrologie. Est-ce qu'un jour, quand t'as un problème de dos, tu vas pas aller voir un ostéopathe plutôt qu'un kiné? Parce que, bah, l'ostéopathe, c'est pas scientifiquement prouvé que ça marche, mais, tu fais déjà plein de trucs qui sont pas scientifiquement prouvés. Je sais pas trop comment expliquer, mais il y a un truc mettre sur le même plan des vérités scientifiquement prouvées et des choses qui sont des croyances, pour moi, c'est un souci. Et on a peut-être vu aussi avec le Covid que ça peut être un souci quand on croit à des trucs, quand on croit à des trucs pas scientifiquement prouvés, ben on peut croire à beaucoup de choses, quoi. Voilà, et comme dit Etsumyu, le souci principal avec les ostéos, c'est la confusion. Les gens pensent que les ostéos sont des médecins, alors que non, par exemple, ils ne sont pas tenus au secret médical, et l'homéopathie, ce n'est pas du... Ce n'est, et ils pensent que l'homéopathie, ce n'est pas du sucre, alors que ça en est. Et Melcel dit, dans la mutuelle de mon job, on a eu 2 séances d'ostéo remboursées. Du coup, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un vrai bail, jusqu'à ce que j'y aille et que je sois en mode, bah, c'est comme le kiné, mais on n'est pas sûr. En effet, moi, j'ai cru très longtemps aussi que l'ostéopathie, c'était littéralement un sous-domaine de la kinésithérapie. Et c'est là où, pour moi, il y a un souci. Si tu penses aller voir quelqu'un qui a un background médical et un diplôme et qui pratique un acte médical, alors que non. Le statut d'ostéopathe est un peu bancal en France. Certaines mutuelles remboursent des séances. Oui, et d'un autre côté, je milite pour que les mutuelles remboursent des séances de psychothérapie. Je ne sais pas à quel point on peut dire que la psychothérapie, c'est scientifiquement prouvé. Dans la psychothérapie, il peut aussi y avoir des charlatans, des arnaques, et puis il peut y avoir des médecins maltraitants et maltraitantes partout. Hein. Mais c'est des choses qui peuvent évoluer. Mais je trouve que ça brouille un peu trop les pistes. Alors, Nita nous dit... on peut se battre sur quel camp est le plus affirmatif. Personnellement, ce sont ces affirmations qui me hérissent le poil. Et là, Mimi et certains d'entre vous, vous affirmez clairement. C'est vrai. Moi, je me contente d'affirmer que l'homéopathie marche sur moi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais ils m'agacent tous quand ils affirment des deux côtés. Pour moi, le problème, Nita, c'est pas d'affirmer que l'homéopathie marche sur toi. C'est d'affirmer que ce qui marche dans l'homéopathie... Et je dis pas que c'est ce que tu fais. Mais le marketing autour de l'homéopathie prétend que ce qui marche, c'est cette idée de mémoire de l'eau. Qu'une molécule, même diluée à des quantités absurdes, l'eau conservera la mémoire du principe actif de cette molécule. Et c'est sous ce prétexte-là qu'on dit que voilà, ces granulés de sucre ou ce gel homéopathique ou ce sirop, il a un principe actif qui fonctionne grâce à la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau est quelque chose qui n'a pas été scientifiquement prouvé. Donc pour moi, le problème, c'est pas de dire l'homéopathie, ça marche sur moi, very ok. C'est les gens qui disent l'homéopathie, ça marche parce que la mémoire de l'eau, ça marche. Là, je suis là en mode non. Et c'est ok. La mémoire de l'eau sur des comprimés secs. Oui, parce que le sucre est dilué dans l'eau et après il déshydrate machin et tout. Enfin, je sais pas. C'est... L'homéopathie, compliqué. Sur Reddit, du coup, en réaction. Alors sur Reddit, on est sur des traits cartésiens. Hein. C'est tous des ingés dev. On est là pour vraiment tout ce qui est la science. Donc on va pas avoir beaucoup de gens, je pense, qui sont dans la team ésotérique pseudo-science. Après, voilà, ça dépend de quoi on parle. Je pense qu'il y a plus de chances de trouver sur Reddit France des gens qui consultent un ostéopathe que des gens qui vont voir des magnétiseurs. Et encore, il y en a. Donc la top réponse dit « Autant de cas de ce genre dans ton entourage ?» Parce que c'est en réponse à un post de quelqu'un qui disait « J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de cas dans mon entourage de gens qui se mettent, qui ne croyaient pas avant, mais qui se mettent à croire à des choses de type énergéticien, magnétiseur, etc. » et donc la top réponse c'est autant de cas de ce genre dans ton entourage, c'est statistiquement très anormal, la seule explication possible c'est que tu dois vivre au-dessus d'une faille tellurique probablement, ou en Ardèche. Ardèche c'est un département à côté de la Drôme où il y a beaucoup de gens qui croient à ce genre de trucs, beaucoup de praticiens et de praticiennes de ce genre de choses, et il y a aussi des gens qui sont, vous savez, électrosensibles, donc les gens qui pensent être hypersensibles et négativement aux ondes, au wifi, etc., qui vivent dans des communautés parce que en Ardèche il y a des coins assez reculés dans la montagne où il y a pas de réseau, quoi. Il y a des vaches et des chèvres et des moutons, quoi. Alors Mr Pink sur le chat dit le problème pour moi c'est l'engrenage. Tu commences par l'homéopathie, tu tombes dans l'antivax, le complotisme et le climato-sceptisme. Pas forcément, c'est pas une pipeline directe, mais pour moi la pente est glissante. Et c'est peut-être mais parce que je suis très cartésienne, quoi. Donc je suis très, en fait, c'est binaire. Est-ce que la science a prouvé que ça marche ? Oui, non. Sinon, ok. Ça veut pas dire que ça fait pas du bien à des gens. Ça veut pas dire qu'on peut pas se tourner vers là. Moi-même, j'ai probablement plein de petites pensées magiques et des choses comme ça, tu vois. Mais je me fais pas payer pour ça. Et je pourrais pas payer quelqu'un pour ça, je pense. Peut-être, dans 5 ans, je vous fais un live, crise de la quarantaine, j'ai été voir une énergéticienne, c'est possible. Peu de chance, mais c'est possible. Je pense qu'il y a plus de chances que je me remette au sport un jour plutôt que j'aille voir une magnétiseuse. À part par curiosité, mais c'est aussi, en fait, moi je veux pas de mal à ces gens et je vais pas aller les voir pour me foutre de leur gueule, quoi. En fait, j'y crois pas, donc je vais pas y aller, je vais pas leur faire perdre du temps en étant persuadée que c'est pour moi quelque chose qui, je dis même pas que ça marchera pas, parce que encore une fois l'effet placebo, il existe même quand tu sais que c'est un effet placebo, mais j'ai pas envie de soutenir ce genre de pratique. Donc, mais je vais pas leur faire perdre leur temps pour, je suis pas là pour les dénoncer, je suis pas Elise Lucet quoi. Si j'arrive, bah on était à Avignon là avec mon mec et des potes en septembre dernier, il y avait une pancarte pour une meuf qui, une voyante ou une meuf qui tire les cartes ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais un peu envie de le faire par curiosité, mais curiosité saine, hein, pas curiosité en mode « on va voir la meuf trop conne qui croit à des trucs », mais juste genre « ok, comment ça se passe ?» Et en fait, je connais des gens plutôt cartésiens qui m'ont dit « j'ai vu un médium et il m'a dit des dingueries. Il m'a dit des choses qu'il ne peut pas savoir. J'y crois un peu. Il m'a dit des trucs. Ce n'est pas possible d'expliquer comment il sait ça. » Et j'ai un peu envie de mettre esprit scientifique, de mettre ma théorie à l'épreuve, quoi. Mais on n'était pas hyper à l'aise. On s'est posé la question et puis on s'est dit « en fait... vu qu'on n'y croit pas, c'est peut-être un peu chelou d'y aller, quoi. Après, on l'aurait payé et tout, tu vois. Mais genre, est-ce que c'est pas un peu dîner de con, tu vois, comme démarche? Alors, je pense pas, mais dans le doute, bon, bah, on n'y a pas été, quoi. Ah, il y a Mouchou qui cite Thierry Casanova, donc un gourou du crudivorisme en mode manger des concombres, ça va guérir le cancer, qui actuellement, il a des bails de procès, hein, etc. Et qui a viré une partie de son discours vers l'extrême droite et les théories du complot. Ouais, après, il est sacrément gratiné, Thierry Casanova, ça. Je pense pas que n'importe quelle personne qui un jour dans sa vie va avoir un ostéopathe ou une naturopathe et Thierry Casanovas level quoi. Lui il est solide sur ses appuis quoi. Et alors il y a Yasei qui dit perso je fais confiance aux vaccins classiques mais j'avoue les derniers vaccins Covid j'ai vu dans mon entourage des gens vraiment mal le supporter donc j'skip. Est-ce que je tourne anti-vax? J'espère que non. Alors je pense que c'est juste une bonne idée de se poser la question. Tu vois oui il y a des gens qui ont mal réagi. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection où, en fait, il y a plein de gens qui réagissent mal aux vaccins normaux, mais pas dans ton entourage, donc tu les vois pas? Est-ce que c'est pas qu'un vaccin normal, tu vois, genre, si tu te fais vacciner, tu fais ton rappel de vaccin, bah, en fait, t'as mal au bras, des fois, t'as de la fièvre pendant un jour ou deux, mais tu sais que c'est normal quand tu te fais vacciner, donc t'en parles pas, alors que là, comme c'était des nouveaux vaccins et qu'il y avait tout le flip autour des effets secondaires, bah, t'en as plus entendu parler parce que les gens, là où avant, ils auraient pris sur eux, ils auraient dit, ah ouais, je me suis vacciné, bon, comme d'hab, hein. Là, il disait, ah ouais, j'ai eu ci, j'ai eu ça. C'est des types de vaccins nouveaux, donc il peut y avoir des types d'effets différents. Je sais qu'il y a eu aussi, bah, par exemple, il y a eu plein de mobilisations féministes autour de... En fait, il y a plein de meufs qui témoignent, de personnes menstruées et de meufs qui témoignent que ça a perturbé leur cycle. Et ça commence à faire beaucoup de témoignages. Et on sait que souvent, les médicaments ne sont testés que sur des corps masculin ou des corps avec des pénis. Donc en fait, peut-être faisons une étude à grande échelle sur les effets du vaccin Covid sur le cycle menstruel, parce que peut-être vous l'avez pas fait dans les tests, en tout cas pas assez, parce que historiquement la médecine est misogyne comme le reste du monde. Donc je dis pas qu'il y a pas des bonnes questions à se poser, mais est-ce que skip juste parce que tu connais quelques personnes qui ont eu des effets indésirables, c'est un bon deal? Qu'est-ce que tu risques? Et c'est un type de vaccin, si j'ai bien compris, les vaccins ARN qui va être de plus en plus présent pour plein de types d'autres vaccins et qui devrait être même assez révolutionnaire pour la santé de tous et toutes. Donc, est-ce que c'est pas juste l'occasion de creuser ces inquiétudes, de te renseigner un peu, de demander à des professionnels de santé, ok, bah, qu'est-ce qui peut faire que ma daronne, elle a eu telle réaction, mon cousin, il a eu ça, mon pote, il a eu ça, et moi, j'ai pas envie d'avoir ça, et de comprendre, ok, qu'est-ce qui fait que ces vaccins, ils sont différents, qu'est-ce qui fait que ça a pu causer ces réactions, est-ce que ça risque de les causer chez toi ou pas, plutôt que juste les skip, ce qui peut, en fait, voilà, comment tu vas faire là, si ton prochain rappel de vaccin, on dit « Ah bah maintenant, c'est ce nouveau type de vaccin, est-ce que tu vas te dire « Ah bah non, j'ai pas voulu le prendre, donc je vais continuer à pas le prendre. » Et du coup, petit à petit, bah, tu vas être en retard sur pas mal de vaccins. Voilà, ça peut être des questions intéressantes. Et de comprendre qu'est-ce qui nous fait peur, en fait. C'est très compliqué, la science, la médecine et tout. Moi, je suis pas experte. Et souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas, surtout quand c'est des choses qu'on doit mettre dans nos corps, etc. C'est tout à fait légitime. Et encore une fois, la maltraitance médicale, ça existe. Les erreurs médicales, ça existe. Les scandales, il y en a eu. Les gouvernements pas au niveau, il y en a eu aussi. Hein. Donc, je dis pas qu'il faut dire oui aveuglément à tout ce que dit le ministère de la Santé et trois docteurs qui ont une parution dans une revue médicale. Mais je ne sais pas comment distinguer un naturopathe honnête d'un naturopathe malhonnête. Et je n'ai pas de méthode pour ça, parce que je pense que c'est jamais vrai, pas que c'est jamais sincère. C'est pas pareil. Ok, on va clore gentiment ce sujet. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement.
m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.